Les orages maléfiques, chapitre 25. Sa nuit fut peuplée de fantômes et de cauchemars. Il ne pouvait s'en dépêtrer. Au milieu des orages maléfiques, des visages lui apparaissaient. Mais, au moment où il allait les reconnaître, il s'évanouissait dans un large sourire. En d'autres temps, il aurait pris une bouteille de vieux whisky et se serait réfugié autour d'un verre qu'il aurait vidé à gorgée continue. Tous ses revenants se seraient dissous dans ce liquide. Aujourd'hui, il préférait affronter sans artifice sa dure réalité. Suong s'immissa dans le cortège. Interrogative et discrète à la fois, elle entrait dans une histoire dont elle ne connaissait rien. Comme Nougaro l'avait si bien chanté, elle apparaissait sur l'écran noir de ses nuits blanches. Et il faisait son cinéma. Tout cela l'amena à réfléchir sur ce qui lui arrivait et sur sa façon de gérer cet événement imprévu dans sa vie d'errance. Il ralluma plusieurs fois la lumière. Ce geste lui parut bien inutile, si bien qu'il ne l'éteint plus. Il resta éveillé, mais ses délires ne disparurent pas pour autant. Les mêmes images défilaient sans cesse dans sa tête. Des frimousses connues semblaient le rappeler à l'ordre. Il pleurait en silence, voulait leur répondre, mais dès qu'il s'apprêtait à ouvrir la bouche, un brouillard opaque entourait la vision qui se repliait hors de son regard. Au matin, il était épuisé par une telle nuit. Tous ses fantômes avaient rejoint la demeure de la nuit. Seule Suong restait présente dans son esprit. Il se posait un grand nombre de questions sur elle, sur lui, sur eux. Il ne savait rien d'elle. Et cela l'empêchait de se projeter plus loin devant. Il souffrait trop pour envisager une relation sans référence au passé. Pourrait-elle accepter de n'être qu'un pis-aller, une roue de secours, une bouée de sauvetage? Ce soir, il irait au rendez-vous et lui dirait qu'il y avait trop d'obstacles pour qu'ils envisagent d'aller plus loin. Il craignait la rencontre, avait peur de manquer de self-control face à sa beauté. Il tourna le problème dans tous les sens, aucune solution acceptable ne lui vint à l'esprit. Subjugué par sa grâce et ses courbes, sa clairvoyance et son jugement se trouvaient altérés. Il raisonnait en dehors de toute logique. Il tergiversa une bonne partie de la matinée avant de prendre sa décision. Il ne se rendrait finalement pas au rendez-vous. Maintenant, il s'agissait d'envisager la suite du programme. Il se rappela qu'un train de nuit reliait Hanoï à Saigon. Il partirait quelques minutes avant la fin du service de Suong. Il pourrait donc s'éclipser sans risquer de la rencontrer sur son chemin. Il n'éprouvait que de la honte et du mépris pour son comportement peu courageux vis-à-vis de la jeune femme, mais espérait qu'elle comprendrait que des abîmes les séparaient. Le tenancier de l'hôtel fut surpris de ce départ précipité. Il ne posa aucune question. L'homme avait ses raisons. Il trouva son client d'une tristesse inaccoutumée et pensa que des problèmes importants l'obligeaient à abréger son séjour. Peut-être reviendrait-il un de ces jours. Le train attendait l'heure du démarrage. Sur le quai, une fourmilière s'agitait dans tous les sens. Il avait acheté le billet en gare et ne put obtenir de couchette. Il préféra donc la classe dure avec les autochtones. C'était plus bruyant, mais bien plus vivant. Des odeurs multiples envahissaient le wagon. Les senteurs d'épices se mélangeaient à celles de la friture et du café. Des voyageurs prévenants s'installaient pour casser la croûte avant une longue nuit. Une cinquantaine de personnes occupaient la voiture d'un confort précaire. Mais cela ne les gênait en rien. Certains jouaient aux cartes en vociférant à chaque levée. Il regardait ce jeu dont il avait du mal à cerner toutes les subtilités. De l'argent circulait de main en main à l'issue de chaque tour de table. Les Vietnamiens, comme la plupart des peuples asiatiques, adoraient le jeu et les paris. Le convoi s'ébranla avec plus de 20 minutes de retard. L'exactitude n'était pas le point fort de la compagnie des chemins de fer. Il regarda sa montre et se dit que la pauvre Suong devait l'attendre devant l'agence. Il se demanda quels vêtements elle portait et se surprit à s'interroger aussi sur ses dessous. Il chassa rapidement cette pensée. Il se trouvait peu fier du vilain tour qu'il venait de lui jouer. Combien de temps attendrait-elle avant de réaliser qu'il ne viendrait pas? Comment allait-elle réagir face à sa muflerie? Il éprouvait de la honte et du soulagement en même temps. Il reprenait son errance sans s'attacher, et l'essentiel se situait là. Les nombreux travaux sur la voie ralentirent l'avancée vers sa destination. Le tortillard se traîna à une vitesse de sénateur. À ce rythme, le convoi arriverait dans l'après-midi. Au lever du jour, il vit défiler le paysage, tantôt en bord de mer, tantôt dans des profils montagneux. Le voyage réservait d'agréables surprises à celui qui savait observer et apprécier la diversité de la nature. Un couple avec deux enfants lui proposa du thé et du riz. Il accepta et parla un peu avec eux. Les mômes le perturbèrent un peu, mais il arriva à faire abstraction et à discuter tranquillement. Il vivait dans les environs d'Hanoï et profitait de quelques jours de vacances pour rendre visite à la famille installée dans le delta du Mékong. Un oncle possédait une ferme piscicole qui lui assurait un revenu confortable et ils envisageaient de monter quelque chose de semblable dans le nord. Les deux gosses s'étaient assoupis, fatigués par les heures de chaos et une nuit sans dormir. Le garçon devait avoir 7 ou 8 ans et sa sœur paraissait bien plus jeune. Ils avaient l'air de bien s'entendre. Il les contempla avec une lueur dans les yeux, puis détourna son regard. Il discuta avec les parents de tout et de rien. Le temps s'égrena plus vite. La ligne reliant le nord au sud subissait d'importants travaux. Des ouvriers, hommes et femmes, s'affairaient le long de la voie, les femmes travaillant aussi durement que les hommes. La devise était à salaire égal, travail égal. L'égalité sous forme de tâches physiques ne devait pas être de tout repos et ces pauvres femmes devaient rentrer harassées, fourbues par ces journées, à transporter de lourdes charges dans d'immenses paniers. À l'approche de Saïgon, les abords des rails étaient envahis par des constructions hétéroclites. Le sous-prolétariat s'employait à survivre dans des conditions épouvantables. Quel que soit le régime politique, le ciel était toujours le même pour les miséreux, chargés de nuages gris. Eux aussi avaient leurs orages maléfiques, mais les leurs duraient toute une vie. À l'entrée en gare, il pensa à nouveau à cette créature divine qui lui avait fait confiance et qui replongeait dans son quotidien avec un peu plus d'amertume aux lèvres. Suong, la belle Suong, que faisait-elle à cet instant? Il aurait voulu l'appeler, s'excuser en s'expliquant, mais renonça par lâcheté. Les quais de Saïgon résonnaient de la pagaille environnante. Les gens couraient dans tous les sens, selon un ordre connu d'eux seuls. Il observa ce manège par la fenêtre, amusé du mouvement de cette ruche en pleine activité, puis quitta ses compagnons de voyage en leur souhaitant bonne chance pour leur projet. Les enfants lui firent un signe de la main, mais il tourna aussitôt les talons.